Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles maintenant dans Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23. Et on va lire les versets 15 jusqu'à 26. Alors, ça n'a rien à voir avec la rentrée, mais je suis sûr que le premier verset parlera à tout parent parmi nous. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiers la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alors le livre des Proverbes est un livre très particulier, un livre assez unique dans la Bible, puisque donc, souvent, on a des textes de loi, on a des textes d'histoire, on a les cantiques des psaumes, on a dans les prophéties, mais le livre des Proverbes est un peu différent. C'est un livre rempli de constats sur la vie en général, de choses, de vérités générales concernant la vie. C'est rempli de bons conseils à suivre. Et si vous lisez ce livre, vous allez vite vous rendre compte que c'est un livre tourné en particulier vers des gens qui sont appelés à gouverner, à exercer des responsabilités. D'ailleurs, je pense, quel que soit notre pays d'origine, ça serait pas mal si nos gouvernants lisaient un peu et surtout appliquaient un peu les principes qu'on trouve pour les gouvernants dans ce livre. Mais si ce livre est unique dans la Bible, en fait, ce style de livre, ce style d'écriture n'est pas tellement unique en général. Les historiens, les archéologues, les experts nous disent qu'ils ont trouvé dans pas mal d'endroits du Moyen-Orient de l'époque biblique des écrits faits de ce style qui ressemblent pas mal au livre des Proverbes, qui en fait était un style où le roi ou celui qui exerçait l'autorité laisser un peu un testament politique au suivant, pour son fils, en lui disant ce qu'il avait vu et observé dans la vie, et en lui laissant donc des conseils sur sa manière de gouverner par la suite. Alors, si ça se trouve, le roi Salomon, que le premier chapitre des Proverbes nous dit être l'auteur principal de ce livre, devait déjà s'en douter un petit peu en ce qui concernait son fils Roboam, qui allait être appelé à gouverner après lui, puisque ben, si en rentrant vous prenez le temps de lire 1 roi chapitre 12, vous allez voir qu'après la mort de Salomon, lorsque son fils Roboam est devenu roi, le peuple sont venus lui dire « Écoute, les conditions de vie étaient assez rudes sous ton père. Si maintenant tu assouplisses un peu, on sera complètement dévoué à toi. » Roboam, qu'est-ce qu'il fait ? Il discute premièrement avec ceux qui avaient régné à côté de son père, qui avaient donc la même expérience de vie, qui avaient vu les choses, qui lui disent bah, « Effectivement, assouplisse un petit peu le régime et le peuple sera à toi et vivra dans la gratitude à toi. » Et après cela, il part demander la même question à ses copains qui avaient grandi avec lui, qui étaient de sa génération, qui lui disent « Ah ben non, il faut faire du coup le contraire, il faut leur montrer qui est le patron, tu te montres bien plus dur que ton père, et comme ça, ça forcera le respect de ton peuple, qui seront donc donnés à toi. » Résultat, la Bible nous dit que Roboam s'est dit bah, « Je ne vais pas écouter le conseil des conseillers de mon père. Du coup, bah, je ne vais pas non plus suivre les conseils que son père avait écrits dans son testament politique pour son fils. Je vais faire ce que me conseillent mes copains. » Résultat, donc, déchirement du peuple d'Israël avec la rébellion des 10 tribus du Nord qui partent fonder leur propre pays et qui disent bah, « Nous, on n'a rien à voir avec la maison de David. Si Roboam il veut poursuivre cette politique-là, ça sera sans nous. » Donc, peut-être Salomon avait mis toute sa sagesse sur papier parce qu'il avait une idée de ce qui allait suivre. Mais donc, même s'il y avait d'autres rois qui ont aussi écrit de tels testaments politiques pour aider leur fils à gouverner après eux, ce livre de Proverbes, même parmi ce style de littérature, est assez unique. Assez unique parce que tout en étant un écrit de son époque, suivant des styles connus de l'époque, c'était un message inspiré par l'Esprit de Dieu, centré sur Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que ce livre se trouve dans la Bible que nous avons aujourd'hui. Proverbes chapitre 1, verset 7, la base de ce que Salomon allait enseigner à son fils, c'est que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Finalement, Roboam n'aurait pas eu besoin de lire très loin pour savoir ce qu'il devait décider. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc finalement, Roboam s'est montré insensé dès le début de son règne. Mais la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Important aussi, on vient de prier pour les enfants, pour leur scolarité. C'est bien d'avoir un bon enseignement, d'avoir de beaux diplômes, mais tout cela ne vaut rien sans la crainte de l'Éternel. Puisque le fondement de tout se trouve dans la crainte de Dieu. Sans cela, la Bible traite tous ceux qui, aussi intellectuels soient-ils, disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils disent que c'est de la folie. Ce sont des fous qui pensent dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais cela nous montre donc ce que nous comprenons par l'inspiration de la Bible, ce que la Bible d'ailleurs elle-même enseigne concernant l'inspiration de la Bible. De Timothée chapitre 3 nous dit que toute l'écriture, donc y compris le livre des Proverbes, est inspirée de Dieu. Le grec parle d'être insufflé par l'Esprit de Dieu est donc utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Finalement, si la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la connaissance, de la sagesse, quoi de plus utile pour nous que de se fonder sur la parole de ce Dieu qui a poussé les apôtres et les prophètes et les rois à écrire. Alors, dans l'inspiration de la Bible, c'est marqué que c'était insufflé de l'Esprit de Dieu. Dieu ne dictait pas les textes, mais il a conduit les auteurs bibliques dans leurs expériences de vie, dans leur choix de matériel, de style. Il leur a conduit pour que nous, nous puissions avoir la parole que Dieu voulait nous communiquer à travers eux. Mais c'est pour cela qu'il y a deux styles différents dans la Bible. Ce n'est pas juste Dieu a imposé un texte sur plein de gens différents. Même si on voit la voix de l'Esprit à travers tous les textes bibliques, Dieu les a conduits comme il avait conduit Salomon à écrire ces textes à leur manière, en employant les formes qu'il connaissait, les mots qu'il voulait utiliser, mais en fait c'était l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre derrière tout cela. D'où Pierre peut dire dans 2 Pierre 1, versets 20 à 21, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Ce n'est pas à nous d'imposer notre interprétation sur la Bible. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, un premier niveau, le livre des Proverbes nous fait entendre la voix de Salomon qui cherche à communiquer sa sagesse pour la génération suivante. Mais au-delà de la voix de Salomon, il y a aussi la voix de Dieu qui parle autant à Roboam à son époque qu'à nous aujourd'hui. Et donc, lorsque Salomon dit à Roboam, « Mon fils, écoute-moi et sois sage. Mon fils, donne-moi ton cœur. » Au-delà de la voix de Salomon, il y a la voix de Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous en tant que son fils. Alors certes, quand on lit à travers ce livre régulièrement cette phrase, « Mon fils », ce n'était pas pour dire que les dames n'étaient pas concernées. Simplement, ça reflète le style de ce genre de document qui était écrit à l'époque. Mais donc, on pourrait très bien dire, vu si on place cela dans le contexte de tout ce que la Bible nous enseigne sur l'amour de Dieu pour nous, « Mon enfant, si ton cœur est sage, chacun d'entre nous ce matin est concerné, quel que soit notre sexe, quel que soit notre âge, quel que soit nos origines, notre arrière-plan. Dieu s'adresse à nous à travers les paroles que Salomon avait à cœur à laisser à son fils. Mon enfant ou mon fils, peut-on lire régulièrement. Ça souligne la grâce de Dieu à notre égard. Dieu le Créateur, Dieu le Très-Haut, ce Dieu dont on a chanté qui est trois fois saint, qui vit dans la gloire, il s'adresse à chacun d'entre nous en disant, « Mon enfant, écoute-moi, sois sage. Mon enfant, écoute ma parole, fais ce que je te dis. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Vous imaginez le privilège que nous avons, cette grâce que Dieu nous fait de s'adresser à chacun d'entre nous en nous appelant son fils, son enfant. Toute la Bible souligne la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Jean 3,16 nous dit que c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Dans Romains 5, verset 8, la Bible nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, comme expression de l'amour du Père pour nous. » Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Jean dit « Mais voyez quel amour le Père nous a témoigné. » pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul est encore plus émerveillé, et dans Éphésiens aussi, il dit, mais vous imaginez, surtout vous, qui n'êtes pas juifs, qui donc n'étaient pas concernés par toutes les promesses dans l'Ancien Testament, il dit, Dieu a choisi de vous inclure parmi son peuple, par grâce en Jésus-Christ, et donc de faire tout le nécessaire pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Et j'en continue en disant ce qui est plus incroyable encore, c'est non seulement Dieu nous appelle ses enfants, mais nous le sommes. Dieu a fait tout ce qui est nécessaire pour que par la foi en Jésus-Christ, nous puissions devenir enfants de Dieu. Et bien sûr, l'Épître aux Romains va dire, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour rendre possible une relation d'amour entre nous et lui. C'est pour ça que Jean va conclure un peu plus loin en disant, pour nous, nous l'aimons, il dit on n'a aucun mérite pour cela, parce que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne faisons que répondre à l'amour que Dieu a pour nous et qui a été exprimé à travers Jésus-Christ. Dieu donc a fait tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir une telle relation d'amour avec lui. Et puis donc, dans ce verset 26 de Proverbe 23, il s'adresse à nous en disant « Mon fils ou mon enfant, donne-moi ton cœur. » Ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a tout fait pour que nous puissions devenir ses enfants, c'est l'Épître de Jean aussi qui dit à tous ceux qui ont reçu le Messie, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour ça, quand Jean 3, quand Jésus discute avec Nicodème, il dit « La naissance naturelle ne suffit pas. On ne naît pas enfant de Dieu. On est enfant de ses parents terrestres. Car ce qui est né de la chair est chair. Chacun d'entre nous, on est enfant de nos parents. Mais tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, c'est-à-dire qui mettent leur foi en lui comme sauveur, il leur donne le droit d'être non seulement nés de leurs parents charnels, terrestres, mais aussi de naître de l'Esprit et donc de devenir enfants de Dieu. Et donc Dieu nous dit, donne-moi ton cœur. C'est un message qu'il adresse à ceux qui n'ont pas reçu Jésus en plaidant avec eux, mais donne-moi ton cœur. C'est aussi un message qui s'adresse à ses fils, à ses enfants. Si tu es mon enfant, Si notre foi nous fait croire avec Jean que Dieu nous appelle ses enfants et en plus nous le sommes, il dit alors, donne-moi ton cœur. Dieu ne s'intéresse pas juste à remplir les bancs de l'Église, à avoir des noms sur une liste de membres d'une Église. Ce qu'il veut, c'est une relation d'amour où chacun donne son cœur. Son cœur, car le cœur est centre de nos émotions. On a déjà entendu dans une des prières ce matin de l'émotion que ça peut procurer d'être enfant de Dieu parmi son peuple. Dans Matthieu 22, quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il parle des émotions. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand commandement. En premier lieu, nous ne sommes pas sauvés pour avoir une vie plus tranquille ou pour éviter les conséquences de notre péché. Nous sommes sauvés pour aimer Dieu en retour pour l'amour qu'il nous a montré en Jésus-Christ. On n'est pas invité à entrer dans une religion philosophique faite de lois, de commandements, d'instructions. Dieu est une personne qui nous aime et qui désire être aimé en retour. Et donc qui nous dit, donne-moi ton cœur. C'est pour ça que tout au long de l'histoire biblique, il comparait sa relation avec son peuple comme une relation parent-enfant, voire même époux et épouse. Éphésiens 5, 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Les prophètes aussi, dans l'Ancien Testament, rappelaient toujours au peuple, de revenir à Dieu, de vivre leur amour pour Dieu, de pas simplement porter l'étiquette d'Israël, du peuple de Dieu, mais de vivre la réalité en aimant Dieu en retour. Donc c'est normal qu'en tant que chrétien, Dieu nous demande un engagement de nos émotions. Donne-moi ton cœur, donne-moi tes émotions, donne-moi ton amour. Mais dans le langage biblique, ce mot « cœur » parle de plus que simplement les émotions, juste où on pourrait vouloir avoir quelques sentiments comme les papillons dans le ventre ou la chair de poule quand on loue le Seigneur. Le cœur parle aussi de la volonté, d'une réflexion, de la direction de notre vie. C'est ce qu'on pourrait appeler une décision mûrement réfléchie. Ce que de nos jours, on n'appellerait plus vraiment du ressort du cœur, mais du cerveau. Mais dans le langage biblique, ça englobait le tout. Les émotions, le cerveau, le cœur, tout. Dieu demande tout de notre part. Mon enfant, donne-moi ton cœur, la totalité, les émotions, mais aussi les décisions, la volonté, la direction. D'où la deuxième partie du verset. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Aimer Dieu implique aussi aimer tout qui concerne Dieu, tout qui reflète Dieu, donc aimer ses voies comme manière de l'aimer, lui. Dieu ne nous appelle pas dans une religion non plus intellectuelle et froide, mais pas non plus dans une religion purement émotionnelle et sentimentale. Il veut tout cela. Intéressant de voir dans Luc 14, lorsque de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même, et peut-être surtout, à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus, en quelque sorte, se tournait vers la foule en disant, bah, ne suivez pas juste parce que les autres me suivent. Ne suivez pas juste parce que c'est populaire. Ne suivez pas juste sur un coup d'émotion. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à la railler en disant « Ah ben cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Il faut aussi réfléchir si tu veux me suivre. Je demande ton cœur. Oui, je demande les émotions, mais je demande aussi tout le reste. Donc réfléchis bien si tu veux me suivre ou non, plutôt que de juste te laisser emporter sur un coup de tête. 1 Jean, chapitre 4, verset 20, souligne ce lien entre notre amour pour Dieu et notre obéissance, notre amour pour les voies de Dieu, l'enseignement de Dieu. Jean va jusqu'à dire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? On pourrait sans doute substituer pas mal les commandements de Dieu et dire, mais si tu peux même pas faire ça, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? D'ailleurs, Luc 6, verset 46, c'était Jésus qui disait, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je fais et ce que je dis? Tout mariage humain, pour être réussi, a besoin d'une part de l'engagement des émotions, mais aussi de la réflexion, des décisions à prendre. C'est une question non pas simplement de nos sentiments, mais de notre volonté et une direction commune. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement, on propose à chaque couple qui demande à l'Église de faire leur mariage une préparation. Parce qu'il y a tellement de questions, de décisions liées à la volonté, aux choses pratiques dans la vie, au-delà des émotions et des sentiments, qu'il faut regarder et prendre en compte avant de s'engager dans un mariage. Jésus nous dit de faire pareil pour cette relation d'amour avec lui. Dieu a fait tout le nécessaire pour qu'une telle relation puisse avoir lieu. Et puis, il nous dit, « Mon fils, mon enfant, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à répondre positivement à cette voix de Dieu qui s'exprime à travers Salomon en disant, « Mon enfant, donne-moi ton cœur. Je te demande de m'aimer. Le premier, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu. Comme Jésus disait à Pierre, m'aimes-tu? Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Réfléchis bien, dit Jésus. Parce que m'aimer, ça implique non seulement les sentiments, mais toute ta vie. Sommes-nous ce matin prêts à lui donner notre cœur? J'ai dit tout à l'heure que la Bible nous dit qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais qu'on peut recevoir le droit de le devenir en acceptant Jésus-Christ, le Messie. Ce matin, si jamais il y a quelqu'un ici et vous n'avez pas jusqu'à là accepté Jésus comme sauveur, consacrer ta vie au Seigneur. Ce message est premièrement adressé à toi par Dieu. Donne-moi ton cœur. Mais aussi, si Dieu a poussé Salomon à l'écrire à son fils, en s'adressant à mon fils. Ça veut dire que tous nous sommes concernés aussi ce matin. Si Dieu a fait tout ce qu'il faut pour nous appeler ses enfants et pour qu'on le devienne, ce qu'il demande en retour, c'est qu'on lui donne notre cœur avec tout ce que cela implique. Que chacun d'entre nous en puisse voir dans notre cœur et répondre à cet appel. Jésus dit, réfléchis bien, regarde ta vie, vois si tu es prêt à tout l'investissement qu'il le faut, et puis donne-moi ton cœur.